qui est la charge ce matin d'apporter le conseil de la parole de Dieu. Alors le titre de la méditation de ce matin, « Un peu de levain fait lever toute la pâte ». Amen. Alors cette phrase, c'est l'apôtre Paul qui l'a prononcée, et tirée de son contexte comme ça, à première vue, ça semble une grande évidence ce qu'il est en train de dire. Hein ? Un peu de levain fait lever toute la pâte. Bon, normal, c'est clair, c'est évident, tout le monde peut être d'accord avec ça, hein, parce qu'on sait qu'ajouter du levain ou de la levure dans la farine, eh bien, ça provoque tout à fait normalement et sans surprise la levée de la pâte, du pain ou du gâteau que nous avons projeté de cuire avant de manger. Scientifiquement parlant, ce phénomène, hein, le levain, ça s'explique par le fait que c'est un ensemble de micro-organismes vivants, hein, le levain ou la levure. Et ces micro-organismes, qui sont de la famille des champignons, eh bien, ils agissent sur la fermentation des matières organiques. D'un point de vue culinaire, le levain, c'est un ingrédient qui participe à la recette en petite quantité, un peu de levain, hein, nous dit-on, mais qui a la particularité de se diffuser et dont l'action, eh bien, finalement, elle s'étend à toute la pâte dans laquelle il a été introduit. Alors, il est bien évident que cette expression de l'apôtre Paul, hein, « un peu de levain fait lever toute la pâte », elle n'est pas issue d'un livre de cuisine, évidemment, hein, mais de la parole de Dieu. Et c'est donc, encore une fois bien évidemment, la portée spirituelle de cette expression qui va nous intéresser ce matin. Le contexte de cette phrase, hein, le contexte, c'est ce qui vient avant, et c'est ce qui vient après la phrase et qui permet d'en éclairer le sens. Le contexte, dans Galates 5, donc, nous dit, alors le verset qui vient avant, Galates 5, verset 7-8, « Vous couriez bien, qui vous a arrêté pour vous empêcher d'obéir à la vérité ? Cette influence ne vient pas de celui qui vous appelle. » La phrase d'après, j'ai cette confiance en vous, donc le verset 10, j'ai cette confiance en vous dans le Seigneur que vous ne penserez pas autrement. Mais celui qui vous trouble, quel qu'il soit, en portera la peine. On voit tout de suite qu'on est clairement dans le registre spirituel. Hein, on n'est pas dans les bonnes recettes de frère Paul. Hein. Jésus du levain nous dit dans Matthieu 16, versets 11 et 12, nous dit « Comment ne comprenez-vous pas que ce n'est pas au sujet de pain que je vous ai parlé ? Gardez-vous du levain des pharisiens et des sadducéens. » Alors, ils comprirent que ce n'était pas du levain du pain qu'il avait dit de se garder, mais de l'enseignement des pharisiens et des sadducéens. À l'époque de Jésus, donc, il y avait une doctrine qu'on appelle corrompue, hein, chez certaines personnes, notamment ceux qu'on appelait les pharisiens, qui étaient dans une religion très formelle, très formaliste, avec plein de rites, d'interdits, ou bien chez d'autres que l'on appelait les sadducéens, qui, eux, ne croyaient ni à la résurrection, ni aux anges. Et ces doctrines-là, eh bien, elles étaient comme un levain qui se répandait et qui infectait le peuple de Dieu. Alors, plus généralement, on sait que dans la parole, le levain, il symbolise le péché, hein, et la corruption morale. Jésus, lui, dans la parole, eh bien, c'est le véritable pain sans levain, hein, parce qu'il est sans malice, il est sans méchanceté, il est sans hypocrisie, il est sans faux enseignements, il est sans compromis. Jésus, il nous nourrit en nous donnant sa parole, sans levain. Cette parole, elle nous fortifie, elle nous édifie, elle nous sanctifie et elle nous rend semblables à lui. Ce matin, on a chanté « Nous voulons voir ta gloire ». Dans un chant, et puis dans un autre, nous voulons te ressembler. Eh bien, les deux choses, elles sont liées, parce que si nous voulons voir la gloire de Dieu, effectivement, il nous faut lui ressembler. Vous serez saints, car je suis saint, nous dit-il. La parole de Jésus, elle est pure et elle est vérité, elle est sans levain. Et c'est pour ça que la parole de Dieu nous dit qu'il ne faut rien y ajouter, ni rien en retrancher. Donc on nous met en garde contre l'influence pernicieuse du levain spirituel. Parce que comme dans la cuisine, eh bien, il suffit d'un peu de ce levain spirituel, là il faut comprendre une personne ou un groupe de personnes, pour influencer d'autres personnes, voire toute une église. Et ça, c'est le souci de Paul, hein, qui, à l'époque, prévient les croyants de ce danger et qui même demande de s'y opposer. Hein, c'est bien d'être prévenu de cette chose-là, mais on ne doit pas en rester spectateur. On nous demande d'être des participants, hein, à la vie du corps qu'est l'Église et de nous y opposer. Il faut donc être concerné, pas simplement être assis sur une chaise et attendre et voir. Hein ? 1 Corinthiens 5, versets 6 à 8, nous dit « Ne savez-vous pas ?» Alors, c'est répétitif, hein, mais c'est ce qu'on appelle la pédagogie, hein, c'est l'art de la répétition. Ne savez-vous pas qu'un peu de levain fait lever toute la pâte ? Faites disparaître le vieux levain, afin que vous soyez une pâte nouvelle, puisque vous êtes sans levain, car Christ, notre Pâque, a été immolé. Célébrons donc la fête, non avec un levain de malice et de méchanceté, mais avec des pains sans levain de la pureté et de la vérité. Faites disparaître le vieux levain, nous dit ce matin la parole du Seigneur. Est-ce qu'on est interpellé ? Est-ce qu'on mesure notre responsabilité, celle de l'Église, par rapport à cela ? Est-ce qu'on prend au sérieux ce type de situation quand elle se présente, lorsqu'on en est témoin ? Ou bien est-ce que cela nous laisse indifférents, comme les Corinthiens à l'époque l'ont été par rapport à la situation dans leur église. Attitude qui, par ailleurs, permet d'être plus confortable pour éviter d'avoir à se prononcer sur des situations qui, à l'évidence, peuvent être très embarrassantes. Dans l'Ancien Testament, on voit que les Israélites ne devaient ni consommer, ni conserver de levain, au sens propre, là, dans les maisons pendant la fête des pains sans levain, qui chaque année, avec la fête de Pâques, de la Pâque, commémorait la délivrance de l'esclavage de l'Égypte par Dieu. Ils avaient interdiction de garder du levain dans leur maison. Pour nous chrétiens, aujourd'hui, qu'est-ce que ça veut dire ? Quel est le parallèle qu'on peut faire ? Hein, on peut dire que nous, chrétiens, dont la mort de Christ à la croix est notre sacrifice pascal, qui est offert une fois pour toutes, hein, et non pas tous les ans, eh bien, c'est que le levain, pour nous, représente le péché, et qui donc, de la même façon que pour les Israélites, doit être enlevé de la maison de Dieu, donc de l'Église locale. Hein, vous voyez ce parallèle. Pas de pain, pas de levain dans la maison des Israélites, pas de levain spirituel dans la maison de Dieu, dans l'église locale. Alors ça va nous amener sur un terrain un petit peu compliqué, un terrain mouvant, voire un terrain miné, peut-être, de la discipline dans l'église. Ce n'est pas un gros mot, la discipline. Hein, de nos jours, on pourrait avoir tendance à dire, quoi ? La discipline ? Mais qu'est-ce que j'entends ? Hein ? Alors, je vais tout de suite préciser que dans tout ce qui va être dit, il n'y a pas de relation directe à faire avec des situations passées ou présentes qui ont pu se produire dans l'Église, que personne n'est particulièrement visé dans ce qui va être dit, parce qu'on est dans le cadre d'un enseignement, et pas dans l'exercice de la discipline du haut de l'estrade. Parce que si on se laisse arrêter par ça, alors on n'en parle jamais. On a toujours peur que l'un dise « Ah oui, mais ah, c'est de moi qu'il parle, ah, tu as vu ce qu'il a dit, etc. » On n'en parle pas. Hein. Donc il n'y a pas de relation. Hein. On est dans un enseignement. Tout ce qui va être dit, c'est la parole de Dieu ce matin. Pour autant, ceci étant dit, c'est chacun de nous, et moi-même le premier, qui doit se sentir concerné par cet enseignement biblique. Hein. Parce que nous sommes... La parole nous dit, des pierres vivantes de l'Église de Jésus-Christ. Donc on est des membres participants. Et c'est bien d'un enseignement qu'il s'agit. La Bible nous enseigne cela. Et ce n'est pas un règlement intérieur d'une association qu'on pourrait soumettre à approbation ou pas. C'est la parole de Dieu. Hein ? C'est ce que dit la Bible. Donc on n'a pas le choix. On peut ne pas faire, mais on doit au moins entendre. Et donc les membres de l'Église, et d'autant plus les responsables, pasteurs anciens, eh bien ils doivent savoir comment se comporter dans l'Église hein, lorsque une situation compliquée, difficile, peut se présenter, afin de ne pas être déstabilisé. Hein, il faut pouvoir s'appuyer sur les directives, les enseignements de la parole de Dieu. Et c'est ce que fait Paul lorsqu'il écrit à son jeune collègue Timothée, 1 Timothée 3, verset 14-15, il lui dit « Je t'écris ces choses avec l'espérance d'aller bientôt vers toi, mais afin que tu saches, si je tarde, comment il faut se conduire dans la maison de Dieu, qui est l'église du Dieu vivant, la colonne et l'appui de la vérité. » Le chrétien véritable, né de nouveau, c'est-à-dire qui s'est réellement repenti de son péché et converti, on est obligé de préciser ça. Parce que parfois, on voit des conversions que l'on pourrait peut-être qualifier de sentimentales. Hein ? Et tout ce qui relève du sentiment, eh bien, c'est du domaine du charnel. Donc le vrai chrétien, eh bien, il veut... Qu'est-ce qu'il veut, le vrai chrétien ? Il veut honorer le nom du Seigneur dans sa vie, dans l'Église. Il veut que la présence de Dieu dans l'Église... Il veut la présence de Dieu dans l'Église. Hein ? C'est vrai qu'on vient pour chanter, on vient pour prier, on vient pour rencontrer les frères et les sœurs, pour vivre la communion fraternelle, pour partager le pain et le vin. Tout cela est vrai, tout cela est bon. Mais le vrai chrétien, au bout du compte, ce qu'il veut, c'est la présence de Dieu dans l'Église. Hein ? Et quoi de meilleur pour cela que de suivre le modèle biblique ? Parce que le modèle biblique, c'est ce qui va permettre une différence claire entre l'Église et le monde. Le Seigneur demande qu'il y ait une ligne de démarcation entre l'Église et le monde, pas une interpénétration. Et de nos jours, l'esprit du monde est tellement fort que c'est ce qu'il est en train d'essayer de faire, hein, qu'il y ait une confusion. Mais la parole de Dieu nous dit qu'il faut une différence claire entre l'Église et le monde. On dit parfois que l'Église est comme une ambassade de Dieu sur terre. Hein, et donc, à ce titre, eh bien, elle doit rendre un bon témoignage. Alors, lisons ce que préconise Jésus à ses disciples lorsqu'il s'agit de marche à suivre en présence d'un frère qui a péché. On trouve ça dans Matthieu 18, versets 15 à 17. Si ton frère a péché, va et reprends-le entre toi et lui seul. S'il t'écoute, tu as gagné ton frère. Mais s'il ne t'écoute pas, prends avec toi une ou deux personnes, afin que toute l'affaire se règle sur la déclaration de deux ou trois témoins. S'ils refusent de les écouter, dis-le à l'Église. Et s'ils refusent aussi d'écouter l'Église, qu'ils soient pour toi comme un païen et un publicain. Pour résumer, la méthode, premièrement, reprendre le frère en privé, ou la sœur. Deuxièmement, si ça ne fonctionne pas, même chose en présence de deux ou trois témoins. Si ça ne suffit toujours pas, devant l'Assemblée. Et en dernière extrémité, s'il refuse d'écouter l'Église, nous est-il dit, qu'il soit pour toi comme un païen ou un publicain, ce qu'on doit comprendre comme étant une mise à l'écart, donc, puisqu'on n'est pas censé fréquenter des païens et des publicains. On remarque que la méthode du Seigneur commence par la douceur, et puis qu'il y a une montée en puissance de la fermeté, hein, graduellement, et que ça se termine quand même par des paroles qui sont dures. Qu'il soit pour toi comme un païen et un publicain. Mais dans sa sagesse, le Seigneur, il a voulu que ces versets que nous venons de lire, eh bien, ils succèdent à deux autres qui en apportent un éclairage différent. C'est toujours pareil, ça s'appelle le contexte. Hein. Matthieu 18, verset 11 nous dit « Le Fils de l'homme est venu sauver ce qui était perdu. » Ça éclaire déjà un petit peu différemment ce qu'on a lu. Ça ne l'efface pas. Mais c'est au niveau de l'intention que cela change. Au verset 14 de Matthieu 18, il est dit « Ce n'est pas la volonté de votre Père qui est dans les cieux qu'il se perde un seul de ses petits. » Donc des versets qui, à première vue, pourraient sembler peut-être contradictoires les uns avec les autres, mais qui sont là en fait pour nous indiquer que la finalité de la discipline dans l'Église, eh bien, ce n'est pas le rejet de celui qui est concerné. Bien au contraire. Hein, le redressement d'une conduite qui est réprouvée par le Seigneur. Et la restauration de la foi et de l'obéissance, et c'est ce qui est voulu par le Seigneur. Hein. Redresser la conduite et restaurer dans la foi et dans l'obéissance. Et pour cela, il y a différents moyens. Donc la difficulté pour ceux qui sont en charge de mettre en œuvre cet enseignement, eh bien, c'est qu'il faut arriver à rechercher un équilibre entre la douceur et la fermeté, entre la rigueur et la miséricorde. Et ça, c'est vraiment avec la grâce de Dieu que c'est possible. Parce que si on agit humainement, charnellement, ça fait beaucoup de dégâts. Il faut vraiment avoir le discernement, être vraiment conduit par le Saint-Esprit. Et ça, c'est un exercice vraiment délicat parce que lorsque on a affaire à des personnes qui s'effritent spirituellement, eh bien, elles évoluent de plus en plus sur un plan charnel et elles acceptent difficilement d'être reprises. Donc, tout l'art de l'exercice. Dans la parole de Dieu, il est traité de plusieurs types de questions de discipline. Hein. Par exemple, des problèmes d'ordre moral. Donc, dans 1 Corinthiens 5, versets 2 et 3, bon, un passage qui est bien connu, qui nous parle d'un cas d'inceste. Hein, dans l'église de Corinthe, il y avait un cas d'inceste entre un homme, donc un chrétien, entre guillemets, peut-être, hein, et la femme de son père. L'inceste, c'est lorsqu'il y a des relations sexuelles entre un homme et une femme qui sont liées par un degré de parenté qui interdit le mariage, qui serait un mariage que l'on appelle consanguin. Hein. Voilà. Eh bien, Paul, lorsqu'il écrit ces choses-là, il dit « J'ai déjà jugé, comme si j'étais présent, celui qui a commis un tel acte. » Donc Paul, il veut que l'on juge ce chrétien, dont la conduite, elle est répréhensible aux yeux de la loi divine. On peut se référer à Lévitique 18, on ne va pas l'afficher. Voilà. Au verset 13, toujours dans 1 Corinthiens 5, Paul demande même de le retrancher du milieu des croyants. Il est dit, ôtez le méchant du milieu de vous. C'est dur. Mais c'est salutaire pour la personne. Parce que si on ne dit rien à la personne, si on la laisse continuer à agir, qu'est-ce qui se passe dans sa tête ? Quelque part, elle va se dire que, bon, ça ne doit pas être si grave que ça, hein, puisqu'elle est toujours en communion avec l'Église, donc c'est qu'il ne doit pas y avoir trop de problèmes. Hein. Donc il ne faut pas que l'on puisse penser ce genre de choses. Mais là encore, il y a d'autres versets qui viennent contrebalancer la dureté de ces injonctions de Paul. 2 Corinthiens 2 nous disent, versets 6 à 11, 2 Corinthiens 2, versets 6 à 11, alors probablement que l'on parle de la même personne qui était mise sous discipline à 1 Corinthiens 5, donc de l'incestueux, probablement. Il suffit pour cet homme du châtiment qui lui a été infligé par le plus grand nombre, en sorte que vous devez bien plutôt lui pardonner et le consoler, de peur qu'il ne soit accablé par une tristesse excessive. Je vous exhorte donc à faire acte de charité envers lui, car je vous ai écrit aussi dans le but de connaître, en vous mettant à l'épreuve, si vous êtes obéissant en toutes choses. Or, à qui vous pardonnez, je pardonne aussi. Et ce que j'ai pardonné, si j'ai pardonné quelque chose, c'est à cause de vous en présence de Christ, afin de ne pas laisser à Satan l'avantage sur nous, car nous n'ignorons pas ses desseins. Le but de la discipline, hein, c'est d'amener celui qui est, on va dire, coupable à la repentance de sorte qu'il puisse être restauré, c'est-à-dire rétabli dans la communion avec Dieu, avec l'Église, avec les frères. Donc, il apparaît dans ce texte que si l'exclusion de cette personne, elle devait être maintenue de manière définitive, plutôt que de faire acte de pardon, parce que parfois il est difficile de pardonner, mais c'est ce que nous demande la parole de Dieu, eh bien si une telle chose devait se produire, eh bien ça ne pourrait que profiter à Satan. Donc la mesure sous discipline, eh bien, elle doit être mesurée et surtout révocable. Révocable. Hein ? Paul demande d'avertir ceux qui sont dans le désordre. Mais attention aux abus, évidemment, hein, parce que où commence le désordre ? Tout le problème est là. Hein ? C'est en tout cas pas une conception personnelle. Il faut toujours s'appuyer sur la parole de Dieu. Et en tout cas, les choses, elles doivent toujours être vérifiées objectivement. Vérifier que les choses que l'on va reprocher à une personne, eh bien, elles sont réellement avérées. C'est vraiment important. Parfois, on peut avoir des réactions charnelles de solidarité. Parce que parfois, il y a des familles qui sont liées par le mariage. Il y a des groupes qui ont des liens particuliers, etc. Et puis, il peut, si l'on n'est plus dans le spirituel, eh bien, il peut y avoir des réactions de solidarité, c'est-à-dire un peu du style « si tu touches à lui, tu touches à moi ». Et là, on est encore dans la sentimentalité, c'est-à-dire dans le charnel, et on n'est plus dans le spirituel. Philippiens 2, versets 3 et 4, exhorte les Philippiens d'éviter tout esprit de parti. S'il le fait, c'est qu'il y a une raison, c'est qu'il l'a constaté, c'est qu'il sait que c'est possible, c'est qu'il l'a vu quelque part. Ne faites rien par esprit de parti ou par vaine gloire, mais que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même. Que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. Le chrétien, il doit faire preuve d'impartialité. Ce n'est pas facile, l'impartialité. Hein ? on voit bien qu'à travers les quelques cas qui ont été abordés, notre responsabilité de chrétien, que ce soit le membre de l'Église, que ce soit un responsable de l'Église, eh bien, c'est de parler, non comme pour plaire à des hommes, mais pour plaire à Dieu qui sonde nos cœurs. Et pour ça, pour entrer dans cette démarche-là, qui est périlleuse, qui n'est pas facile, il y a une seule solution, c'est de bien connaître la parole de Dieu. Parfois, on peut s'entendre opposer le verset de Jean 8, verset 7, qui nous dit « Que celui de vous qui est sans péché lui jette la première pierre. » Bon, alors ça se veut un argument imparable, hein, évidemment, mais s'il est vrai que personne ne peut prétendre être parfait, cette parole de Jésus, là, qui est tirée de l'histoire de la femme adultère, elle ne peut être utilisée pour contredire d'autres passages qui invitent à l'exercice de la discipline dans la maison de Dieu. Parce que s'il est vrai que personne n'est parfait, il y a quand même des mesures qui sont à prendre. Et je crois qu'il faut saisir la différence entre, d'une part, lorsqu'on est confronté à ce genre d'arguments, il faut faire la différence, en être convaincu soi-même déjà, qu'il faut faire la différence entre l'accueil que Jésus réserve aux pécheurs repentants et d'autre part entre la sainteté et l'ordre qui sont attendus de la part des chrétiens dans la maison de Dieu. Et on ne doit pas oublier non plus que quand on cite ce verset, Jésus a dit aussi à la femme adultère, après lui avoir pardonné, va et ne pêche plus. Hein ? Jésus, qui est sauveur, eh bien, il n'a jamais repoussé ceux et celles qui s'adressent à lui, qui viennent vers lui dans une attitude de repentance. Jésus pardonne tout, sauf le blasphème contre le Saint-Esprit. Parfois, on est dans des situations personnelles où on n'arrive pas à se pardonner. On a vécu des choses terribles, on a peut-être fait des choses terribles, et on n'arrive pas à se pardonner. Mais la parole de Dieu nous dit que Jésus pardonne tout, sauf le blasphème du Saint-Esprit. Et il est le même aujourd'hui qu'il était hier. Et donc ses paroles, elles sont toujours vraies. Luc 5, verset 31-32. Ce ne sont pas ceux qui se portent bien qui ont besoin de médecins, mais les malades. Je ne suis pas venu appeler à la repentance des justes, mais des pécheurs. Jésus invite toujours tous les pécheurs à venir à lui. Et c'est le même qui dit aussi, dans Jean 6, verset 37, « Je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi. » Alors, attention à tout accompli. Vous savez cette expression-là que l'on a, « Tout est accompli. » Hein ? Pas faire de contresens quand même, hein, parce que c'est vrai que notre liberté en Christ, nous l'avons, la liberté en Christ, mais elle ne doit pas être comprise comme une sorte de dérogation à marcher selon la chair. Hein. Tout croyant qui est né de nouveau, c'est un enfant de Dieu, et avec en tant que tel, eh bien, la responsabilité, hein, si ce mot a un sens, la responsabilité de se conduire dignement. Éphésiens 4, versets 1 et 2, « Je vous exhorte à marcher d'une manière digne de la vocation qui vous a été adressée, en toute humilité et douceur, avec patience, vous supportant les uns les autres avec amour. » Eh bien, pas facile, hein ? Colossiens 1, verset 10, rajoute « Portant des fruits en toutes sortes de bonnes œuvres et croissant par la connaissance de Dieu. » La discipline dans l'Église locale, elle est légitime uniquement à la lumière de la parole de Dieu, à la lumière de la sainteté de Dieu. Hein ? Un autre argument massue. On entend parfois dire « il ne faut pas juger ». Ah, Alors ça, c'est vrai que Jésus a dit ça. Il a dit, par exemple, dans Matthieu 7, versets 1 et 2, « Ne jugez point, afin que vous ne soyez point jugés, car on vous jugera du jugement dont vous jugez, et l'on vous mesurera avec la mesure dont vous mesurez. » Donc, ne jugez point. Mais il a dit aussi, « Ne jugez pas selon l'apparence, mais jugez selon la justice. » Paul dit aussi, « Ne jugez de rien avant le temps, jusqu'à ce que vienne le Seigneur. » Mais il dit aussi, « L'homme spirituel juge de tout. » Alors, autant d'affirmations qui, évidemment, encore une fois, peuvent sembler contradictoires, mais le contexte de la parole de Dieu, il nous montre que les chrétiens, ils ne sont pas invités à être dépourvus de tout jugement, mais qu'au contraire, ils doivent avoir, alors on n'emploie pas ce terme-là, mais ils doivent avoir du discernement. Du discernement entre quoi ? Entre le bien et le mal. Hébreux 5, verset 14, « La nourriture solide est pour les hommes faits, pour ceux dont le jugement est exercé par l'usage à discerner ce qui est bien et ce qui est mal. » Frères et sœurs, la Bible nous enseigne d'exercer la discipline au milieu de lui. La discipline, elle rappelle aussi à chacun que nous sommes fragiles et vulnérables. Parce qu'il est dit aussi dans la parole de Dieu que celui qui croit être debout ne prenne garde de tomber. Alors ce que Dieu disait à Israël autrefois, eh bien, il reste vrai pour le peuple de Dieu aujourd'hui. Il disait à Israël, « Ce sont vos crimes qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu. Ce sont vos péchés qui vous cachent sa face et l'empêchent de vous écouter. » Ça, c'est un verset important. Le Nouveau Testament, lui, nous exhorte à ne pas attrister le Saint-Esprit par une conduite que l'on appelle charnelle. Donc, on trouve ça dans Éphésiens 4, Éphésiens 5. Que toute amertume, toute animosité, écoutez bien, toute colère, toute clameur, toute calomnie et toute espèce de méchanceté disparaissent du milieu de vous. Soyez bons les uns envers les autres, compatissants, vous pardonnant réciproquement, comme Dieu vous a pardonné en Christ. Que la débauche, ni aucune impureté, ni la cupidité ne soient pas même nommées parmi vous, ainsi qu'il convient à des saints, qu'on n'entende ni paroles grossières, ni propos insensés ou équivoques, choses qui sont contraires à la bienséance, qu'on entende plutôt des actions de grâce. Car sachez-le bien, aucun débauché ou impur ou cupide, c'est-à-dire idolâtre, n'a d'héritage dans le royaume de Christ et de Dieu. Ces exhortations-là, elles ont une portée individuelle, bien sûr, mais aussi collective. Parce que l'état spirituel d'une assemblée locale, eh bien, il est lié à celui des personnes qui la composent. Et tolérer le péché, comme je l'ai dit tout à l'heure, eh bien, c'est laisser entendre à celui qui le pratique, qu'il est toujours en communion avec l'Église, et que donc sa conduite, quelque part, elle est, si ce n'est approuvé, en tout cas que ce n'est pas si grave que ça. Mes frères et sœurs, la parole de Dieu nous montre que celui qui marche dans les ténèbres, eh bien, il a besoin de se l'entendre dire, concrètement, avec amour, avec compassion, afin que ça suscite en lui la repentance selon Dieu. Ecclésiaste 8, verset 11 nous dit, « Parce qu'une sentence contre les mauvaises actions ne s'exécute pas promptement, le cœur des fils de l'homme se remplit en eux du désir de faire le mal. » Et ça, ça reste vrai pour tous les temps. Alors la discipline, eh bien, elle est censée inspirer la crainte de Dieu. Mais quand on emploie ce terme de crainte de Dieu, il faut bien comprendre de quoi il s'agit. Hein. La parole de Dieu nous en donne la définition. Nous, lorsqu'on parle de crainte, on parle de peur, quoi. Hein. Grosso modo, la crainte, c'est la peur. La parole de Dieu nous dit, la crainte de Dieu, c'est la haine du mal. Proverbe 8, verset 13. Ou bien, la crainte de Dieu, c'est le commencement de la sagesse. Proverbe 9, verset 10. Donc cette crainte dont il est parlé dans la parole de Dieu, ce n'est pas la peur d'un châtiment, même s'il peut y avoir un châtiment. Mais c'est le souci, en fait, de ne pas déplaire au Seigneur en lui désobéissant. Et donc la sagesse pour nous chrétiens, eh bien, dans la vie de tous les jours, c'est l'application pratique des enseignements de la parole de Dieu. La discipline, elle a pour but la restauration de la personne, le rétablissement de la communion avec Dieu, avec l'Église. La discipline, quelle qu'en soit sa forme, elle n'est jamais une fin en soi, mais c'est toujours un moyen de ramener un frère ou une sœur d'un égarement que l'on espère passager. Il ne s'agit jamais d'écraser l'un ou l'autre, mais de le redresser en suscitant en lui la repentance selon Dieu. N'oublions jamais que Dieu dit dans Ézéchiel 18, verset 23, « Le Seigneur ne veut pas la mort du méchant, mais qu'il change et qu'il vive. » Amen. Hein ? Hébreux 12, 21 nous dit, Hébreux 12, verset 11 nous dit, « Il est vrai que tout châtiment semble d'abord un sujet de tristesse et non de joie. » Eh oui, hein, c'est évident. « Mais il produit plus tard, pour ceux qui ont été ainsi exercés, un fruit paisible de justice. » La discipline, elle a atteint son but lorsque le frère ou la sœur, il a compris la nature de sa faute, le tort qu'il a pu faire au nom du Seigneur et la tristesse qu'il a causée dans le cœur de ses frères et sœurs dans la foi. Et il a atteint le but également lorsqu'il y a évidemment, non seulement qu'il a compris tout ça, mais qu'il y a changement d'attitude et de conduite. En conclusion, je dirais que l'exercice de la discipline, c'est une tâche difficile, mais qui ne doit pas être négligée. C'est ce que nous demande la parole de Dieu. Les Écritures nous enseignent que Dieu lui-même discipline ses enfants parce qu'il les aime. Ça, c'est comme les parents et les enfants que nous sommes. Hein ? Lorsqu'on discipline nos enfants, c'est parce qu'on les aime, c'est pas parce qu'on les déteste. Hein. En tant qu'enseignant, j'ai souvent eu l'occasion d'entendre des parents qui me disaient « Ah non, mais moi, je ne lui dis jamais rien. Ah non, non, parce que moi, je l'aime, mon fils. » Mais ça, c'est tout le contraire de l'amour. Parce que aimer son enfant, c'est lui donner un cadre, c'est lui donner des règles, c'est lui permettre de grandir et de devenir un homme, une femme, hein. C'est ça l'amour, c'est pas se débarrasser de toute responsabilité. Oh non, non, mais moi je l'aime, il fait ce qu'il veut, je ne veux surtout pas le brimer. Hein. Il est interdit d'interdire, oh là là. Hein. Ça c'est le contraire de l'amour, ça c'est la sentimentalité encore une fois. Hein. Et c'est très charnel. Donc le Seigneur discipline ses enfants parce qu'il les aime, et c'est cette même motivation qui doit animer les responsables de l'Église qui sont chargés de cette responsabilité. Jérémie 48, verset 10 dit « Maudit soit celui qui fait avec négligence l'œuvre de l'Éternel. » Waouh ! C'est une mise en garde solennelle, hein ? Et elle doit nous faire réfléchir chacun. Chacun pour notre propre part. On n'a pas tous les mêmes responsabilités, mais on est tous membres du corps. Et s'il est vrai que nous vivons sous la grâce, eh bien, il est dit dans Jacques 3, sans les œuvres, la foi est morte. Amen. Merci Seigneur parce que tu es vivant au milieu de nous. Merci parce que tu es celui qui nous a sauvés, Seigneur. Tu as fait de nous tes enfants. Et notre responsabilité, notre désir le plus cher, Seigneur, c'est d'être digne de toi. Nous voulons être, Seigneur, ceux qui brillent. Nous voulons être, Seigneur, ce sel de la terre dont tu parles dans ta parole, Seigneur. Alors viens nous fortifier, Seigneur. Tu connais nos faiblesses, tu connais nos manquements, nos incapacités, Seigneur, mais tu as mis en nous ton Saint-Esprit, Seigneur, et nous voulons le laisser vivre. Nous voulons que nos cœurs soient ouverts, Seigneur, à son action, afin d'être pleinement dignes de ton témoignage, Seigneur. Merci de nous fortifier, merci de nous remplir. Tu es vivant, Seigneur, au milieu de ton peuple. Amen.